Ocati.
Je suis en train d'assister à un spectacle indigne du sport congolais. Nana, ici au stade des Martyrs, les deux formations sont déjà sur le terrain. Mais il s'est fait que lorsque les dirigeants du tout-puissant Mazembe qui étaient dans les vestiaires ont voulu venir en passant par la tribune officielle pour rejoindre le banc de Mazembe, il y a fanatiques et supporters que derrière que Motema Pembe se sont interposés pour qu'ils ne puissent pas passer au devant de la tribune officielle. Et cela a créé un désordre.
Bonsoir, sport et violence. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous parlons de la violence dans le football congolais. Quelle en est la cause? Quelles pourraient en être les conséquences? Quelles sont les mesures d'urgence à prendre pour lutter contre ce phénomène? Réponse dans Dialogue en Congolais spécial que nous réalisons ce soir en partenariat avec la rédaction sportive de Radio Capi. Nous avons invité pour en parler le deuxième vice-président de la Fédération Congolaise de Football Association, M. Nkwin Lai, le conseiller du ministre de Sport chargé des sports d'élite, M. Kalala Kwanji, et en direct de Lubumbashi au Katanga, M. Vigbo Mulongo, président du football club Lupopo, l'un des grands clubs du pays.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez poser des questions à nos invités? Par SMS, composez-le 081 051 57 78.
Voilà, mais avant d'écouter le point de vue de nos invités sur cette question, nous allons d'abord recevoir notre confrère Christian Mulumba de la rédaction sportive de Radio Okapi, qui est avec nous dans ce studio. Il nous décrira un peu l'ampleur de ce phénomène qui se développe de plus en plus en RDC et nous en donnera aussi les causes. Bonsoir Christian Mulumba.
Bonsoir Jean-Claude Quinzin.
Pouvez-vous nous décrire avec des exemples concrets comment se passe la violence dans nos stades de football à travers le pays?
Claude Kianza, parlons du dernier polémique en date qui concerne le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi et le dernier club Motema Pembe de Kinshasa. Le 31 juillet dernier, au stade de Martyrs, lors du match retour de la sixième journée du championnat national, les supporters du DSMP attendaient rendre la monnaie de leur pièce aux dirigeants de Mazembe. Moïse Katumbi, président de Mazembe, était accusé d'avoir fait molester dans les vestiaires du stade de la Kenya à Lubumbashi, Hilaire Lumbaya, président de coordination du dernier club Motema Pembe. Pour se venger, les supporters du DSMP vont empêcher à Moïse Katumbi de suivre l'évolution de son équipe à partir de gradin du stade de Martyrs.
Et qu'est-ce qui, d'après vous, peut expliquer cette violence dans les stades de football?
Très souvent, on remarque que les décisions du corps arbitral prises contre l'une ou l'autre équipe sont mal acceptées par les sympathisants. On peut aussi épingler non seulement le comportement des joueurs sur le terrain, mais aussi le comportement des dirigeants sur la zone neutre. À l'arrivée, on remarque aussi une très forte recrudescence du chauvinisme.
Et Christian Mulumba, quelles sont les mesures prises concrètement par les autorités aussi bien politiques que sportives pour enrayer ce phénomène?
Alors, en ce qui concerne les mesures à prendre pour endiguer ce phénomène, c'est simple, des textes régissant la pratique du sport et celle du football sur toute étendue de la RDC existe déjà, mais à mon humble avis, il faudra les durcir un peu plus. Pour les multirécidivistes, les amendes de 300, 500 ou 1000 dollars ou la perte des points ne semble d'aucun effet. Une rétrogradation en division inférieure ferait peut-être réfléchir certaines personnes. Bien plus, les fauteurs de troubles sont connus, puisque très souvent les bévues sont commises au nez et à la barbe des forces de l'ordre. Et au sujet des forces de l'ordre, on constate que non seulement elles ne sont pas suffisamment spécialisées, mais souvent les effectifs sont réduits. Plus grave, les policiers en faction au stade assistent au match en spectateur.
Merci Christian Mulumba, mais comme je l'avais dit, vous restez avec nous tout au long de cette émission et vous interviendrez aussi dans le débat avec nos invités. Voilà, avant de commencer, avant de céder la parole à nos invités, nous avons quelques questions de nos auditeurs parce que nous faisons cette émission avec eux. Il y a Pierre Nkulu du Katanga qui nous envoie sa question par SMS. Elle est adressée à M. Nkwin Lai, le deuxième vice-président de la FECOFA, Qu'est-ce qui manque à la FECOFA pour choisir de bons arbitres qui pourront arbitrer convenablement le match de football, au lieu de ne choisir que les corruptibles, car ce sont eux qui sont à la base de ces agitations ou violences dans les stades?
Bon, merci. Je vais répondre à la question de tout à l'heure. Je crois que le choix des arbitres est opéré au niveau d'abord de nos entités de base. Lorsque nous parlons des entités de base, nous avons les cercles, le regroupement sportif, et nous avons les ententes tant urbaines que rurales, et nous avons les ligues provinciales. Donc, ce sont ces entités, au vu de certains critères, que nous considérons ici par exemple les Texcopers, au vu de certains critères de performance que les ligues envoient à la fédération de la liste des arbitres pratiquants et des arbitres qui sont à même de pouvoir, après avoir suivi un certain processus, un certain mécanisme, c'est-à-dire en passant par des arbitres stagiaires, qui passent par les arbitres de la catégorie 1, les arbitres de la catégorie 2, ils deviennent arbitres de la catégorie 1, ils deviennent arbitre fédéral, arbitre national. Et c'est au niveau de la base, comme je l'ai dit, que ces arbitres sont choisis et désignés, envoyés au niveau de la fédération. La fédération entérine la décision des différentes entités subdélégataires.
Mais qu'est-ce qui fait que ces arbitres soient, certains d'entre eux du moins, soient corruptibles d'après M. Pierre Nkoulou du Katanga?
Bon, vous savez, ça c'est un comportement qui est imputable pratiquement à la conscience d'un chacun. Nous avons des arbitres à notre niveau, au niveau de notre pays, qui font aussi un bon travail. Je vais vous citer à titre exemplatif un arbitre qui est en train de donner le meilleur de lui-même. C'est le cas de l'arbitre de la Ligue du football du Bas-Congo. Un arbitre qui est en train de monter, un certain Didier Vividoulou, cet arbitre. Je crois, il y a 2 ans passés, nous étions à Boma. L'année passée, nous étions à Boma et je suis très content d'être à côté de celui qui à son temps nous avait accompagné à Boma. C'est un arbitre qui fait du bon travail. Et à chaque fois qu'il y a une rencontre au niveau national, des rencontres qui sont considérées comme des rencontres à haut risque, cet arbitre souvent qui fait des matchs, mais il le fait sans problème. Et souvent à la fin du match,
ce n'est qu'une exception.
Ça, ce n'est qu'une exception à la fin du match. Il est applaudi et par les deux équipes et par les spectateurs.
Mais est-ce qu'ils sont bien payés, vos arbitres? Peut-être c'est aussi ça, la source de cette corruption qui amène la violence, en partie la violence dans les salles.
Moi, je pense que quand on donne à un arbitre pour une rencontre de football une prime, je donne un exemple de $50, c'est quand même quelque chose, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, nos fonctionnaires, il y a certains qui n'atteignent même pas ce montant-là de $50.
Oui, Christian. Monsieur Kim, on constate, puisque vous parlez de $50, mais on se rend compte que s'il y a un corrompu, un correcteur, qui donne un peu plus. Et puisque vous parlez de l'arbitre qui a officié à Matadi, on a l'impression que vous, en tant que responsable, l'un des responsables au niveau de la FECOFA, vous vous réjouissez de n'avoir que celui-là. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt.
Non, je n'ai cité qu'un cas parmi tant d'autres.
Mais ils ne sont pas nombreux, on le sait.
Non, en fait, je vais vous donner un exemple. Vous savez que pour la première fois, ça c'est la deuxième année, notre fédération a un trio arbitral qui est félicité au niveau de la FIFA et qui pour la quatrième fois, s'il vous plaît, pour la quatrième fois, et ça c'est une première, pour la quatrième fois va faire une compétition de la FIFA au niveau des éliminatoires jumelés de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe du Monde. Je vous cite les cas de l'arbitre Bokadila, je vous cite les cas de l'arbitre Longa Longa et je vous cite les cas de l'arbitre Kazali Kanyonga. Et ces trois arbitres qui constituent pour nous un trio arbitral va pour la quatrième fois faire des rencontres de haut niveau de la FIFA et désigné par la FIFA à cause des performances qu'ils ont fait montrer tout au long de différentes rencontres qu'ils ont officiées.
Oui, voilà, pour ne pas monopoliser la parole, une autre question s'adresse à vous, Monsieur Kalala. Kalala Kwanji, vous êtes le conseiller du ministre des Sports, chargé des sports d'élite. Et cette question nous vient de Kinshasa et nous a été envoyée par SMS par Monsieur Didier Madi. Il dit ceci: pourquoi laisse-t-on la police se faire corrompre au stade ou vendre parallèlement les billets à vil prix au lieu de s'occuper de la sécurité? Chose grave, cela se fait remarquer même lors des rencontres internationales. Quelle image pour le pays?
Merci pour la question. Avant de me donner à la réponse, je voudrais d'abord rectifier. Je ne m'appelle pas Kalala Kwanji, C'est plutôt Kalala Bouadji.
Bouadji, excusez-nous hein? Alors.
Je tiens absolument à ce que mon nom soit bien compris.
Exact.
Merci. Bien, ma réponse va un peu toucher la question à laquelle mon frère Quim a eu à répondre tout à l'heure. C'est-à-dire, les questions en rapport avec la corruption procèdent d'un phénomène social. Il ne faudrait pas dissocier les problèmes de corruption qui se déroulent même dans nos stades avec tous les problèmes sociaux que les Congolais connaissent. Là, nous faisons un peu ce qu'on appelle en d'autres termes de l'hypocrisie sociale, c'est-à-dire que nous croyons que parce que quelqu'un est arrivé au stade qu'il a oublié tous les contraintes sociaux, financières auxquelles sont confrontés les Congolais. Et comme l'a dit l'honorable Kim tout à l'heure, c'est aussi un problème de conscience, c'est-à-dire tout celui qui estime qu'il peut braguer, hein, brader sa personnalité contre une petite somme d'argent, c'est un problème de conscience. Il ne faudrait pas que nous puissions prendre les choux, les haricots, mettre tout dans un même sac.
Mais cela ne signifie pas qu'on doit les laisser faire, que les autorités, vous les
laissez faire. Je ne suis pas arrivé à cela. Si vous pouvez me permettre d'expliquer d'abord le contexte.
Allez-y,
c'est le contexte que j'ai expliqué. Et qu'est-ce que nous faisons pour faire en sorte que nous puissions annihiler ces effets au sein de nos organisations sportives? Il y a des inspecteurs. Et ces inspecteurs-là, ça donne justement à contrôler toutes les opérations qui se déroulent dans le processus d'entrée au stade. Et parfois même, j'ai eu à remarquer avec l'association nationale FECOFA qu'on a eu affaire même à faire appel aux étudiants d'une certaine institution supérieure de la place pour faire en sorte qu'on puisse un peu contourner tous ces effets néfastes que nous déplorons tous les jours. Donc le problème de corruption, c'est un problème de conscience de tout un chacun. Même les services spécialisés de gardiennage auxquels on a eu souvent à recourir ne nous ont jamais donné de bons résultats parce que c'est un problème général qui touche la société dans son essence propre.
Voilà. Avant d'aller à Lubumbashi, où nous avons en ligne le président du football club Lupopo, M. Vigbo Mulongo, nous avons quelques opinions de nos auditeurs. Il y a M. Maxime Kabangu du Katanga qui nous envoie son opinion par SMS. Il dit ceci: les dirigeants des clubs sont à la base, de ces violences parce qu'ils changent de décision selon leur humeur. Il y a Nestor Mirugi à Kisangani dans la province orientale qui nous envoie également son opinion par SMS, qui dit ceci: certains arbitres brillent par leur incompétence. C'est ce qui est à la base de la plupart des violences. Voilà, nous allons nous rendre maintenant à Lubumbashi, où nous avons en ligne M. Vigbo Mulongo. Vous êtes l'un des grands, le président de l'un des grands clubs de ce pays, Lupopo. Et comment réagissez-vous face à cet accès de violence auquel nous avons assisté au stade lors du dernier match entre DSMP et Mazembe, où le dirigeant de Mazembe a été empêché par certains supporters de poursuivre, son chemin comme il le fallait?
Oui, je crois que ce que nous avons vécu, c'est le résultat d'un certain processus. Vous savez, dans cette chose, il y a la responsabilité de tout le monde. Nous-mêmes, déjà, en tant que dirigeants, nous avons une part de responsabilité. Il y a la responsabilité de nos amis qui organisent les championnats, c'est-à-dire les entités. Nous avons la part de nos amis supporters, ainsi que les autorités publiques, l'autorité établie. Je vais m'expliquer. Si nous, dirigeants, nous sommes impliqués dans cette violence dans les stades, c'est parce que nous n'arrivons pas à encadrer suffisamment nos masses. Et vous savez que certains dirigeants, je ne vais pas me mettre en exergue parce que j'ai fait partie d'eux, sont aussi responsables du fait qu'ils véhiculent certains messages incendiaires. Je ne citerai pas de cas pour ne léser personne, mais cela c'est une réalité que nous sommes en train de constater. De la part des organisateurs, c'est-à-dire les entités qui nous dirigent, nous remarquons un laisser-aller, une certaines faiblesses dans les décisions, notamment lors de la désignation des arbitres. Vous savez qu'il y a beaucoup de sentiments là-dessus. C'est connu, c'est quelque chose à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire. Et j'ai parlé aussi du problème de nos supporters, parce qu'il y a cette mentalité de ne pas accepter les défaites. C'est un phénomène assez naturel. Donc, au football, il n'y a que trois résultats qui peuvent sanctionner une rencontre, c'est-à-dire soit la défaite, la victoire ou un match nul. Donc, c'est des choses qu'il faut naturellement accepter. Or, malheureusement, nos supporters ne sont pas de cet avis général.
Donc, vous voulez dire que vous attribuez les causes de la violence dans le football congolais à l'encadrement, au manque d'encadrement des supporters et, disons, au choix des arbitres qui n'est pas fait de façon rigoureuse selon les sentiments, comme vous le dites.
Bien sûr, mais il y a un élément principal, c'est aussi l'impunité. Vous savez, je voulais terminer avec le pouvoir public, c'est-à-dire les gens qui sont en fait responsables de ces désordres sont connus. Je crois qu'un des intervenants l'a souligné tout à l'heure, ou c'est vous-même le journaliste qui en est parlé. Nous savons qui fait quoi au stade et qui amène le désordre. C'est-à-dire ce monsieur-là, nous pouvons très bien les livrer afin qu'il soit jugé et condamné comme tout citoyen devant la justice. Donc cette impunité amène aussi une certaine violence.
Et
notamment c'est le désordre qui règne dans la désignation des arbitres, ainsi de suite, et tous ces sentiments qui se manifestent dans ces organisations.
Monsieur Vigbo Moulongo, puisque vous parlez d'impunité de ces gens qui provoquent des violences dans les stades et qui sont connus, d'après vous, pourquoi ces gens sont intouchables?
Non, ils sont intouchables parce que ce désordre plaise à certaines personnes. Vous savez, bon, depuis que nous connaissons ce que nous connaissons, on attend des sanctions, les sanctions ne tombent jamais. C'est-à-dire que quelque part, certaines personnes se retrouvent dans ce désordre-là. Donc on crée ce désordre à dessein, de manière à ce que les choses marchent d'une certaine façon. C'est tout simplement ça, le phénomène n'est pas si compliqué que ça.
Monsieur Kouim Lai, vous êtes deuxième vice-président de la Fédération congolaise de football. Comment vous réagissez face aux propos de Monsieur Vigbo Moulongo qui attribue la violence à une certaine impunité des gens qui sont connus, mais pour des intérêts de certaines personnes ou de certaines personnes, ces gens restent toujours impunis. Et puis il attribue également cette violence au choix sentimental des arbitres.
Oui, je crois que puisque nous touchons le point le plus important qui est celui de la violence. Je crois que cette violence a plusieurs causes. C'est vrai qu'il a parlé de deux dirigeants qui se comportent pratiquement en fanatique, en supporter, au lieu de se comporter à un bon encadreur, à celui qui doit donner la bonne leçon, qui doit se comporter de façon digne. Lorsqu'un dirigeant pénètre la zone nette alors qu'il n'est pas habilité à se trouver sur la zone nette, alors qu'il n'est pas habilité à lancer des discours, des messages incendiaires. Donc, vous savez que le comportement sur le terrain par rapport aux supporters ne peut être que la conséquence du comportement de ces dirigeants. Et lorsque vous prenez même vous-même les journalistes, à travers vos reportages, vous incitez la population à la violence, à la haine, à des messages.
Non, mais là, il faut des preuves, il faut pas faire des
informations gratuites. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Vous savez, les cas le plus récent, c'est le cas du match de SMP Mazembe. Et d'où est venue cette violence? Parce que il y a quelques années passées, Mazembe et de SMP, pour ne citer que ces deux clubs, ils étaient pratiquement des frères inséparables. Et souvent, quand l'équipe de DSMP s'est déplacée pour Lubumbashi, il arrivait à des moments où ils étaient pratiquement bien reçus par nos frères de Mazembe au stade de Lupopo. Et subitement, il y a eu renversement de la situation. Tout est parti de la dernière rencontre de l'année passée entre l'équipe de Mazembe et l'équipe de DSMP. Vous vous rappelez des incidents qui ont émaillé lors de cette rencontre qui s'est jouée à Kinshasa, le match, je pense, des un but partout. Il y a eu certains de vos confrères qui ont fait des commentaires dans le divers sens et qui ont incité certains supporters de Mazembe à la violence. Ça, c'est un cas que je vais citer. Et au retour, lors du dernier match, parce que moi j'étais présent à Lubumbashi, j'étais invité par la Linafoot, le match de la troisième et quatrième journée où V-Club s'est produit et 2MP à Lubumbashi.
Le 31
oui, au mois de juin. Et à notre retour, il y a eu certains de vos confrères de la presse, soit de la presse, tant de la presse audiovisuelle que de la presse écrite, qui ont même incité, qui ont fait des messages incendiaires, donnant l'impression que les dirigeants des 2MP ont été mal reçus à Lubumbashi, et que les dirigeants des 2MP étaient tabassés, les joueurs des 2MP, patati patata. Les écrits sont là, et je crois, ce sont là des conséquences.
Mais monsieur Quim, on n'a vu aucune réaction des responsables, ni de la Ligue nationale de football, ni de la Fédération congolaise de football, parce qu'on savait qu'il y avait un match retour qui allait se jouer à Kinshasa.
Vous savez, la Linafoot, c'est une compétition gérée par un comité de gestion que vous connaissez. Ce comité de gestion gère ce championnat au nom et pour compte de la Fédération. Et je me rappelle, le président Poutou est passé sur les antennes pour faire un démenti formel quant à ce qui s'est passé à Lubumbashi et par rapport à cet raconteur. Je l'ai suivi moi-même personnellement.
Il y a eu un double langage du président Poutou.
Voilà. Oui, monsieur le conseiller.
Bien, je voudrais intervenir ici parce que j'ai comme l'impression que monsieur le vice-président de la FECOFA n'a pas su relever un élément important lorsque vous avez dit qu'il n'y a rien eu pour prévenir ce qui pouvait arriver à Kinshasa. Moi, je vous dis que le ministre de la Jeunesse et de l'Histoire, M. Nimi, avant que ce derby ne puisse se dérouler, a eu à convoquer et la FECOFA et la Linafoot, ainsi que tous les clubs engagés pour cette journée-là, dans son cabinet de travail. Et il a eu à les sensibiliser sur les dangers qu'il y avait, à donner des messages incendiaires, à faire en sorte que certains citoyens ne puissent pas circuler librement dans leur pays, se rendre au stade et supporter le club de leur choix. Donc, cette campagne-là a été initiée par le ministre Nimi, qui a associé tous les dirigeants au niveau des entités et au niveau des clubs. Donc, il ne faudrait pas ici dire qu'il n'y a eu aucune action allant dans le sens de décourager.
Oui, mais justement, au début de notre entretien avec mon confrère Christian Moulumba, il a relevé qu'en ce qui concerne les sanctions, elles ne sont pas assez fortes. On voit dans les autres pays des clubs qui sont relégués même dans des divisions inférieures. Mais ici, il se passe la violence, mais il n'y a pas de sanctions vraiment sévères. On demande peut-être $500 à un club qui le lendemain va récidiver, va recommencer. Vous, au niveau du ministère, pourquoi n'appliquez-vous pas ce genre de sanctions?
Le ministre avait promis de prendre des sanctions.
Exactement.
Le ministre peut prendre des mesures et ces mesures vont aller peut-être dans le sens de supprimer carrément l'organisation de rencontres. Ce qui n'est pas du goût de tout le monde. À titre illustratif, aujourd'hui, pour préserver justement ce climat serein qui doit précéder la rencontre que notre équipe nationale doit jouer le 4 septembre contre l'équipe de Cap-Vert et faire en sorte que nous ne puissions pas avoir un stade qui va continuer à afficher une réputation de lieu où se déroulent des troubles, le ministre a pris la décision de ne plus faire jouer des rencontres jusqu'au match de Simba. Donc, c'est pour vous dire que les mesures, nous les prenons, elles ne peuvent pas arranger tout le monde, parfois nous sommes incompris, mais pour revenir aux sanctions, ce n'est pas au niveau du ministre que doivent se prendre les sanctions en rapport avec la tenue d'une rencontre.
Mais vous êtes l'autorité politique qui dirige le ministère du Sport.
S'il vous plaît, il faudrait que nous puissions nous mettre d'accord sur certains faits. La Fédération Congolaise de Football Association dispose des règlements généraux et sportifs ainsi que d'un code de sanctions, qu'on appelle communément barème de sanctions. Ces sanctions-là doivent être appliquées à chaque fois qu'il y a un cas flagrant.
Par qui ? La Fédération, c'est ça.
La Fédération ne les applique que lorsque... Enfin, nous parlons des cas de compétition qui se joue à un certain niveau.
Oui.
Lorsque nous sommes dans une compétition qui se joue au niveau d'une entité, je prends un exemple, la Lifkin.
Oui.
La fédération ne saisit que lorsque les équipes qui ont eu à subir les sanctions viennent en évocation au niveau de la fédération. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des étapes à franchir pour arriver à ce niveau-là. Mais quand il s'agit d'une compétition qui se déroule au niveau d'une entité et qu'il y a des faits flagrants qui sont relevés et qui vont à l'encontre des règlements, l'entité organisatrice de la compétition prend les mesures qu'il faut. Et la fédération veille à ce que ces mesures-là soient réellement appliquées.
Voilà, monsieur Quim, je ne sais pas si on peut vous renvoyer la même question que Christian avait évoquée. Les sanctions ne sont pas si dures pour les clubs, de telle sorte que ces clubs récidivent, ils reprennent avec la violence. Pourquoi vous ne rétrogradez pas, par exemple, certains clubs pour servir d'exemple?
Je vais y arriver à donner cette réponse, mais je voulais d'abord que pour besoin de précision, que nous arrivions d'abord à énumérer les causes qui sont à la base de la violence dans nos installations sportives. Je parlais des dirigeants qui, pour la plupart, n'encadrent pas leurs supporters.
Parce que vous avez semblé jeter la balle sur le camp des journalistes.
Non, j'ai parlé aussi de la presse qui, dans plusieurs cas, ne véhicule pas un bon message. Je n'ai pas parlé des supporters qui n'acceptent pas qu'il y ait une défaite pour les uns ou pour les autres. J'ai parlé aussi des forces de l'ordre qui, dans une certaine mesure, n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités comme il se doit.
Justement, elles suivent le match au lieu excusez-moi, dans les autres stades européens, par exemple, les forces de l'ordre ne suivent pas le match.
Ils sont là pour
regarder le public.
Mais ce constat-là n'a pas été fait aujourd'hui.
Oui, parce que pour la plupart des cas, vous voyez, les forces de l'ordre, ils sont plus soit fanatiques de Mazembe, ou soit fanatiques de Lupopo, ou soit fanatiques de Vekleb, ou soit fanatiques de DSNP, ou de Virunga, ou de Kabasha. Alors, ils ont difficile à être au-dessus de
la mêlée. Mais qu'est-ce que vous faites pour changer?
Je crois que les causes sont multiples et nous devons maintenant y remédier. À ce qui concerne les dirigeants, c'est d'abord avoir les bons dirigeants qui maîtrisent les textes, non seulement parce qu'ils ont des moyens pour diriger, mais des dirigeants qui maîtrisent les textes. Avoir nos amis, les journalistes qui doivent véhiculer non le message de la haine, mais un message de solidarité, parce que le sport, en général, c'est une école de loyauté, une école de solidarité, une école d'amour, une école de fair play. Avoir des supporters, malheureusement, nous n'avons que des fanatiques, on n'a pas de supporters, qui doivent comprendre, pour un match de football, il y a trois résultats, il y a la victoire, il y a la défaite, il y a le match nul. Avoir aussi des dirigeants au niveau de nos entités qui doivent appliquer réellement les sanctions conformément à la Bible édictée par la fédération. Nous avons les codes disciplinaires et nous avons les
voilà, vous subissez aussi des pressions d'en haut. Avant d'y arriver, nous allons voir que la violence dans les stades, ce n'est pas simplement à Kinshasa ou à Lubumbashi. Nous allons faire un saut à Bunia où dimanche dernier, il y a eu un match entre deux clubs de football et ce match ne s'est pas terminé tout simplement parce que la violence y a élu domicile. C'est un reportage avec notre confrère Anselme Massoin.
Tout a bien commencé dimanche au stade de la cité de Bunia entre la jeunesse électronique de Gambela et le FC Bata. La première partie de la rencontre s'est terminée à l'avantage de Gambela sur le score de 2-1. Une partie qui a présenté au public venu nombreux un beau spectacle suite au jeu équilibré des deux équipes. C'est vers la 6e minute de la deuxième partie de la rencontre que tout a basculé, et ceci après le but de Gambela marqué par son attaquant central. But contesté par FC Bata, l'équipe adverse qui taxe de hors-jeu la position de l'attaquant de Gambela. Plongé dans un dilemme, l'arbitre n'arrive pas à trancher, c'est-à-dire soit valider les buts ou sanctionner la position litigieuse. L'arbitre sera passé au tabac par les supporters. Le calme n'est revenu au stade qu'après l'intervention des éléments de FARDC. Un entraîneur d'une des équipes de Bunia et un supporter regrette ce qu'a fait l'arbitre.
Bon, si on a tabassé l'arbitre, ça je crois que ce sont les fanatiques, hein. Ce ne sont pas les joueurs. La position de l'arbitre est mitigeuse. D'abord, hein, l'arbitre n'a pas même désigné le centre pour accorder le but. Il est resté perplexe. Il surveillait maintenant le juge de touche. Je ne sais pas si c'est le juge de touche qui dirigeait la rencontre ou bien c'était lui l'arbitre. Le juge de touche n'a pas soulevé le drapelet. Dès qu'il y a un but accordé, le juge de touche court directement pour venir ici sur la ligne médiane et accorder le but. Mais le juge de touche est resté sur sa position. C'est pour dire qu'il y a eu hésitation entre le juge de touche et l'arbitre.
On a déploré l'arbitrage de la Bissoua.
Je déplore l'arbitrage de Bunia. Dans toutes les rencontres à Bunia, l'arbitrage nous déçoit. Voilà par exemple le match d'aujourd'hui. À 6 minutes seulement de la deuxième partie de la rencontre, le match est interrompu à cause de l'arbitrage. Même moi, fanatique, j'ai vu que c'était un hors-jeu. En tout cas, nous regrettons l'arbitrage. Il nous faut un recyclage des arbitres ici à Bunia.
Il faut recyclage et arbitres.
Voilà, nous allons à Lubumbashi où nous avons en ligne M. Vigbo Mulongo, président du football club Lupopo. Vous avez évoqué comme l'une des causes de la violence le mauvais arbitrage sur le terrain. Dans ce reportage, nous suivons un fan de football qui dit qu'il faut à tout prix qu'il y ait un certain recyclage d'arbitres. Est-ce que vous pensez, vous êtes du même avis que lui, vous qui êtes à Lubumbashi dans le Katanga?
Tout à fait, mon frère. Vous savez, l'arbitrage, c'est vraiment une calamité dans notre pays. Je vais vous citer, pour exemple, il y a de cela, je crois, 2 années, nous avons été invités dans le cadre de la NINAFOOT à livrer une rencontre contre le Sivu dans le Bas-Congo. Mais, vous savez, je ne sais pas, je ne voudrais pas revenir sur tout ce qui s'est passé, mais j'ai assisté à un spectacle que je n'avais jamais auparavant vécu de ma vie. Il y a un certain Monsieur Coco, un arbitre du Bas-Congo, qui a été retenu pour juger la rencontre, et ce qui s'est passé est connu de tout le monde, on ne va pas revenir là-dessus. Et vous savez que pour cette rencontre, et par rapport au comportement de nos autres dirigeants, le Popo a écopé de graves sanctions. Le même monsieur, comme par hasard, dernièrement, à cette dernière édition de la NINAFOOT, a été invité pour arbitrer notre match contre le Motema Pembe. Et vous savez ce qui s'est passé au stade de Martyr. Donc, c'est clair, vous voyez que c'est clair. L'arbitrage, le mauvais arbitrage est quelque part encouragé. Encouragé par qui? Mais justement par les entités. Justement par les mêmes autorités qui
Mais est-ce qu'il y a des recyclages d'arbitres à l'intérieur du pays? Puisque nous avons le deuxième vice-président de la FECOFA ici et le conseiller du ministre qui pourront nous donner des précisions. Au niveau de l'intérieur du pays, est-ce que vous avez des recyclages d'arbitres pour les amener à un certain niveau?
Ça n'existe pas justement, ça n'existe pas. Il y a quelques recyclages, quelques séminaires qui se sont organisés au niveau de Kinshasa, où évidemment, bon, il fallait faire les frais. Nous sommes allés jusqu'à aider nos amis arbitres pour rejoindre Kinshasa. Mais c'est des choses rares. Nous voyons le cas en Zambie, il y a la FIFA qui amène tout le temps des recycleurs, et ils sont là, ils sont en train d'encadrer. C'est vraiment fréquent, et ça peut se passer sur une année, 2 ou 3 fois. C'est des choses qui n'existent pas chez nous.
Voilà.
Avec tout ce qui s'ensuit comme moralité et tout ce qui a comme mauvais aspect.
Voilà, la balle vous est renvoyée, monsieur le deuxième vice-président de la FECOFAL.
Je suis très étonné d'apprendre d'un président d'un club affirmer qu'il n'existe pas de séminaire de formation pour arbitre. Peut-être qu'il ne suit pas l'évolution de séminaire pour arbitre, parce que je dois lui rappeler qu'à chaque année, je crois que Christian est ici à mes côtés, la fédération, par l'entremise de la CAF et de la FIFA, organise 2 séminaires du premier et deuxième degré pour nos arbitres.
Tous les arbitres de l'intérieur du pays.
Tous les arbitres de l'intérieur du pays viennent ici.
Ceux qui ont la possibilité.
Ceux qui ont la possibilité. Et nous demandons aux ligues de pouvoir envoyer les arbitres pour prendre part à ces séminaires.
Mais toutes les ligues n'ont pas les mêmes moyens comme.
Je vais y arriver. Qu'à cela ne tienne, conformément au programme calendrier de la fédération, nous avons des arbitres instructeurs. Qui sont ces arbitres instructeurs? Ce sont des arbitres internationaux retraités à qui nous demandons d'organiser à leur niveau, au niveau de chaque entité, des séminaires de formation à leur niveau. Et au niveau de chaque entité de base, il y a des séminaires qui sont organisés. Moi, j'ai les rapports de la Ligue de football du Katanga où il y a eu des séminaires qui ont été organisés à l'intention des arbitres avant le démarrage du championnat du Katanga. Donc là n'est pas tellement le problème. Moi, je crois que je suis d'avis qu'on doit à tout moment vulgariser des séminaires de formation parce que la formation, elle est continuelle. Le problème d'arbitrage aussi, c'est vrai que parmi les causes qui sont à la base de la violence, c'est le mauvais arbitrage. Là, je suis d'accord. Mais il ne faut pas donner l'impression que nous n'avons que des déchets. Le problème d'arbitrage, même au niveau de la FIFA, on a le même problème.
Mais vous ne mettez pas des moyens suffisants pour les arbitres de l'intérieur du pays pour venir.
Mais je vous apprends, monsieur le journaliste, qu'il y a 2 jours, il y a 2 des arbitres qui sont rentrés d'un stage au Tchad,
Il s'agit de l'arbitre Tchabana, n'est pas l'arbitre Tekinshasa.
Deux seulement.
Et de l'arbitre Musungai. Avant l'arbitre Musungai, il y a l'arbitre Bokadila.
Sur combien d'arbitres qu'on a ici?
Non, qui est allé passer un stage. Mais en dehors de ces stages-là, je crois au mois d'octobre, nous aurons un stage international pour l'arbitre. Et là, nous allons demander, je crois que le président de l'UPOPOL me suit, parce que ça intéresse toutes les entités de base, pour qu'ils se démènent, pour que la Ligue puisse faire de son mieux, envoyer les arbitres, suivre les séminaires de recyclage du premier degré qui va se passer ici à Kinshasa. Donc, crois que ce malaise, il existe,
exactement.
Il est réel, mais je crois que nous devons faire un effort de pouvoir recycler les arbitres pour que les arbitres aient à faciliter la tâche aux gens qui viennent assister au match.
Donc, vous relevez peut-être que cet effort-là est jusque-là insuffisant de la part de la fédération.
Mais il existe.
Voilà. Nous avons quelques questions des auditeurs. Didon Sengo de Kisangani dans la province orientale nous envoie sa question par SMS à M. Nkouim, le deuxième vice-président de la Fédération congolaise de football. Les stades encaissent de l'argent, mais les rencontres ne sont pas sécurisées. Alors, où va l'argent? Attendez, on va les citer en bloc et vous allez répondre. Sylvain Malemba du Katanga nous envoie également sa question par SMS à M. Nkouim toujours. Quelle est la réaction de la FECOFA face à ces violences et que nous propose-t-elle comme résolution? Il y a Jean-Marie Alombi d'Arou dans la province orientale qui nous envoie également sa question par SMS et elle est adressée à M. Kalala, conseiller du ministre chargé des sports d'élite. Les violences dans les sports relèvent-elles d'un problème politique ou tout simplement d'un problème organisationnel? Monsieur Rupini Undinga de Mahagi dans la province orientale nous envoie son opinion par SMS. Pour éradiquer les cas de violence dans les stades, il faudrait apprendre les règlements sportifs aux gens qui les commettent. Il y a Didier Madi de Kinshasa qui nous envoie également par SMS sa question à Monsieur Kalala Kwanji. Boadi, c'est ça? Excusez-moi. Y a-t-il un âge limité pour entrer au stade? Si oui, alors pourquoi laisse-t-on les mineurs peupler les stades? Il y a Pierre Mayele de Kananga au Kasaï Occidental qui nous envoie également une question par SMS à M. Kouim. Il semble que tous les dirigeants de la FECOFA désignent des arbitres qu'ils influencent en faveur des équipes de Kinshasa. Pouvez-vous nous expliquer cela? Il y a aussi quelqu'un qui n'a pas donné son nom, qui nous envoie sa question de Kinshasa. C'est une opinion, excusez-moi. Ceux qui doivent diriger sont réduits en fanatiques. Ceci est à la base de désordre. Voilà. Quelques réponses à ces questions.
Bon, la première question, je vais répondre à celui qui a posé le problème des recettes. Je crois que les recettes générées par les rencontres sportives ont une clé de répartition, une clé de répartition qui émane de l'arrêté signé par l'autorité des titelles. Je crois que c'est l'arrêté 004 de l'époque de l'ancien ministre Moutombo Kibal, qui n'est pas encore abrégé. Et je crois que je suis ici à côté du conseiller du ministre qui est chargé des sports. Nous sommes en train de nous battre pour qu'on revoie cet arrêté, dans la mesure où les plus grands bénéficiaires soient des équipes, soient ceux qui produisent les spectacles. À ce qui concerne la deuxième question qui concerne les violences, quelles sont les mesures, je crois que nous sommes tous d'accord que nous devons éradiquer ce fléau qui est en train pratiquement de prendre une ampleur qui, si demain nous ne faisons pas attention, risque pratiquement de tuer notre football.
Et avoir aussi des répercussions politiques.
Nous devons éradiquer ce fléau, et je crois les textes existent. Il suffit seulement de pouvoir appliquer les textes et les appliquer de façon objective et sans sentiment. Je crois que nous arriverons à de bons résultats. Je prends le cas du match que DSMP a joué contre, qu'Everclub a joué contre DSMP. Je ne vais pas faire un jugement quelconque. Le match était arrêté à la suite de l'envahissement de quelques
supporters
d'Everclub sur la zone nette. Et je crois qu'il y a des décisions qui ont été appliquées. Everclub a perdu le match par forfait. En dehors de ce match qu'Everclub a perdu.
Est-ce que cette décision ne sera pas renversée
En dehors de ce match.
Parce qu'il semble que ça, c'est déjà arrivé. On prend une décision et finalement on la révoque.
En dehors de ce match qu'Everclub a perdu par forfait, il y a 3 points qui lui ont été retranchés. Je prends le cas aussi de DSMP qui a perdu pratiquement.
Limitons-nous un peu là-bas. Oui. Monsieur Kalala, il y a une question qui vient de Harou, Jean-Marie Alombi, Harou de la province orientale, qui nous envoie sa question par SMS. Les violences dans les sports relèvent-elles d'un problème politique ou tout simplement d'un problème organisationnel? En quelque sorte, est-ce qu'il y a aussi une relation entre la politique
et le sport. Y a-t-il intrusion de la politique dans le sport? Parce qu'on a vu dernièrement au stade de Martyrs un vice-président de la République être conspué et des supporters également chanter des messages qui ne sont pas des messages assez violents et donc tous et parfois ils boudent même l'hymne national au stade. Est-ce qu'il y a intrusion? Vous avez l'impression qu'il y a intrusion de la politique dans notre sport?
Merci pour la question. Je voudrais ici insister sur un fait. C'est que le sport procède plus de la passion. Et la passion, si elle n'était pas dans le sport, je prends le cas exprès du football, vous n'aurez pas tous ces millions qui sont déversés sur le football, en ce qui concerne l'acquisition de joueurs, le fait de supporter toute une équipe, alors que notre football n'est pas rentable, en ce qui concerne les gens qui se posent en mécène. C'est-à-dire que tous ces gestes sont posés à partir d'une passion. On nourrit pour cette discipline.
Il n'y a pas intrusion de la politique dans le football congolais?
J'en viens. Ici, il faudrait qu'on fasse très attention. Parce que lorsqu'on veut parler de l'intrusion de la politique, le fait que certains opérateurs politiques s'intéressant à leur image de marque puissent venir prendre les rênes d'une équipe de football et de là croire que la politique a fait son intrusion dans le football.
Non, mais ces messages qui sont véhiculés dans le stade, on boude un vice-président, on refuse de chanter l'hymne national.
Si vous voulez que je puisse m'appesantir précisément sur ce cas-là, je vous dis que le Congolais moyen, en face d'une autorité, repense plus à ses problèmes domestiques, à ses problèmes de tous les jours. Et certaines réactions qui sont d'ordre purement passionnel vont faire en sorte que les gens puissent les coller à une certaine politique ou à une certaine position politique et leur donner une zone d'emploi.
Donc il n'y a pas d'intrusion de la politique.
Il n'y a pas d'intrusion de la politique. Cette bouderie-là est tout à fait accidentelle et procède du fait que les gens qui n'arrivent pas à, et c'est le cas de plusieurs de nos compatriotes, qui n'arrivent pas à retrouver leur compte nos problèmes sociaux, puisse de temps en temps le manifester. Enfin,
mais ça revient souvent, ce qui est bizarre.
C'est
voilà, voilà.
On se rend compte aussi assez souvent.
Voilà, nous allons nous rendre à Lubumbashi où nous avons en ligne Vicbo Mulongo. Vous êtes président d'un grand club de football du pays, c'est-à-dire le FC Lupopo. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a intrusion de la politique dans le football? Je donnerai un exemple. Après les incidents qui ont eu lieu au stade entre DSMP et Mazembe, les équipes de Lubumbashi ont décidé de ne pas venir jouer ici. Est-ce que ce n'est pas un peu une sorte d'intrusion de la politique dans le football? Rapidement, s'il vous plaît, nous sommes à la fin de l'émission.
Oui, je crois que c'est ce qui est dommage. La politique est en train de prendre le dessus dans le football, ce qui est vraiment condamnable. Vous savez, nous autres sportifs, nous sommes plus ou moins politiques et nous devons faire un maximum d'efforts pour nous ranger, pour ne pas être rangés du côté politique.
Concrètement, comment ça se passe, cette intrusion de la politique? Ça se passe comment?
C'est un problème de positionnement. Vous savez, nous sommes à la veille des élections, nous sommes la sollicitation de plusieurs politiques et tout ça, bon, ce n'est pas des secrets de polichinelle, tout le monde connaît cela. Nous sommes le sport capable de regrouper un très grand nombre de gens. Je crois que ce que je peux conseiller à nos amis politiques, c'est de nous laisser un peu tranquilles. Vous savez, nous recherchons un esprit sain dans un corps sain. Et ce que nous voulons, c'est le discernement de nos amis,
voilà.
De la diversion et ainsi de suite.
Exactement.
Tout ça amène des insanités dans le sport et ce n'est pas de nature à ce que...
Okay. Nous nous arrêtons là. Nous sommes à la fin de cette émission. Voilà, donc nous avons parlé aujourd'hui de la violence dans le football et demain nous parlerons également de l'acquaintance entre la politique et la religion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à demain pour une autre édition de Dialogue entre Congolais.
Merci.